Fausse Info.
18h41, c'est l'heure du débrief éco chaque dimanche soir sur France Info en partenariat avec le Cercle des économistes. Un peu plus tôt que d'habitude cette semaine, Tour de France oblige, vous connaissez la règle. 20 minutes de débat et d'éclairage sur les grands thèmes qui marquent l'actualité économique et sociale. Bonsoir Emmanuel Cuny.
Bonsoir Camille, bonsoir à tous.
Ce soir on s'interroge, comment redresser les comptes publics sans augmenter les impôts? Vos deux invités sont avec nous, on les présente dans un instant. Mais d'abord on dresse rapidement le tableau. Cette semaine, la Cour des comptes a publié un audit alarmiste sur l'état des finances publiques hérité de François Hollande. Le gouvernement s'engage à contenir le déficit à 3% du PIB en 2017 sans augmenter les impôts. Le Premier ministre va dire comment il compte s'y prendre après-demain lors de son discours de politique générale à l'Assemblée. Mais l'équation semble bien compliquée.
Bah oui, parce que selon la Cour des comptes, le déficit public devrait s'établir cette année à 3,2% du PIB en l'absence de mesures fortes de redressement. C'est inacceptable, a commenté le Premier ministre Édouard Philippe. Alors une fois qu'on a dit ça, que fait-on? Alors comment le gouvernement peut-il s'y prendre effectivement? Les économies, oui, mais jusqu'où? Quelles réformes structurelles pour le long terme? Autant dire que le discours du Premier ministre est très attendu mardi prochain.
Et pour en débattre ce soir, voici nos deux invités. Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Aurélie Trouvé, vous êtes porte-parole du mouvement Attaque. Bonsoir.
Bonsoir.
Pour lancer le débat, je vous propose tout d'abord d'écouter justement Édouard Philippe et qui parle de ce trou laissé dans les finances publiques par le prédécesseur d'Emmanuel Macron à l'Élysée.
8 milliards d'euros de promesses non financées, 8 milliards d'euros de chèques en bois. L'équipe sortante s'était engagée sur un déficit à 2,8% du PIB. La Cour nous dit aujourd'hui qu'il est sans doute autour de 3,2%. Et ce 3,2% suppose déjà des mesures de réduction de la dépense que la Cour qualifie elle-même de vigoureuses.
Voilà, Édouard Philippe, Aurélie Trouvé, tous déballages de chiffres et de commentaires, même si la Cour des comptes explique les dérapages. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu de mise en scène de la part de l'équipe qui arrive au pouvoir?
Oui, je pense fortement. Je pense que c'est une dramatisation de la situation qui vise en fait à soutenir le projet initial du gouvernement qui est de baisser drastiquement les dépenses publiques. En réalité, 3,2% de déficit, ça serait déjà une baisse, hein, et une baisse qui n'a cessé d'ailleurs depuis 2009. Hein. Par ailleurs, le respect des 3%, en fait, ça n'a guère de justification économique sérieuse, dans le sens où ce qui compte pour ne pas augmenter la dette dans le PIB, dans le PIB, c'est qu'on n'ait pas de taux de croissance inférieur au taux d'intérêt. Or, le taux de croissance, il est relativement bon, il est prévu à 1,6% et les taux d'intérêt sont pour l'instant quand même relativement très faibles.
On rappelle que le PIB, le produit intérieur brut, c'est la richesse produite par le pays chaque année. Hein. Alors, le creusement des déficits publics, c'est quand même chronique depuis maintenant les années 90. Chaque année, la Cour des comptes y va de son rapport, tire le signal d'alarme. Il ne se passe jamais rien finalement, le trou continue de grossir. Est-ce que c'est normal, Christian de Boissieu? Est-ce qu'on va reconnaître finalement la même situation?
Je pense que ce n'est pas normal, c'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose parce que...
Bah oui, mais on le dit tout le temps,
non,
ça.
Non, mais là, on a atteint, je veux dire, on va arriver à un ratio de dette publique que... très proche de 100% du fameux PIB.
C'est-à-dire qu'on va dépenser autant qu'on ne gagne dans l'année.
Enfin, ce n'est pas tout à fait ça, parce que la dette, c'est l'accumulation.
Enfin, c'est de l'argent qui sort, quoi, on va dire.
Hein,
c'est comme si un couple dépensait plus qu'il ne gagne.
Deuxième élément, c'est la question du signal que nous donnons, en particulier aux autres. Alors, on est dans un débat franco-allemand qui n'est pas toujours facile. Je ne suis pas en train de dire qu'il faille imiter l'Allemagne, mais c'est vrai qu'au moment où les Allemands affichent un excédent budgétaire qui n'est pas très loin de 15 milliards d'euros...
Enfin, on est à 70 milliards de trous.
Bon, alors, nous sommes donc dans un contexte où, dans ce débat franco-allemand, autour duquel je refuse évidemment de résumer l'Europe. L'Europe, il n'y a pas que la France et l'Allemagne, mais il y a bien sûr d'autres pays, mais c'est quand même relativement important ce qui se passe dans le franco-allemand. Je crois que c'est un signal pas négligeable. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On ne va pas augmenter les impôts. Je pense que le gouvernement va retarder les baisses. Bon, ça reviendra un peu au même d'une certaine façon, c'est-à-dire que par exemple...
Il a commencé à préparer le terrain en disant que les baisses seraient là, mais on ne sait pas quand exactement,
moi,
on a 5 ans pour le
faire. Je
termine
en disant, je pense que le gouvernement va jouer un peu du calendrier pour retarder certaines baisses, étaler ça dans le temps, ce qui n'est peut-être pas génial par rapport à la conjoncture économique.
Mais il n'augmentera pas.
Et sur la maîtrise des dépenses publiques, il va y avoir certainement quelques mesures restrictives qui vont être annoncées. C'est déjà fait sur le traitement de la fonction publique, d'ailleurs, vous avez vu le gel du point des fonctionnaires. Bon, mais en même temps, c'est pas... en 3 mois qu'on va pouvoir faire la réforme de l'État.
Ça pose effectivement la problématique des recettes et des dépenses, Aurélie Trouvé. Est-ce qu'on peut continuer à baisser les impôts aujourd'hui en France ?
Oui, ben je pense qu'au contraire, il faut en restaurer. D'abord, il est faux de dire qu'en France, on paye plus d'impôts que les autres. Il y a un rapport de l'OCDE qui est sorti très récemment qui prouve tout à fait le contraire, qu'on en paye moins sur bien des aspects, moins qu'en Allemagne ou même qu'en Espagne. Et le problème, c'est que Emmanuel Macron et son gouvernement ont prévu des baisses fortes de recettes publiques de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards d'euros par an. Et c'est un vrai problème si effectivement on parle de déficit public et si tant est qu'il faille qu'on respecte
c'est-à-dire qu'il y a un effet ciseau, il y a un effet ciseau, on ne pourra pas remplir nos objectifs.
Du coup, le problème, c'est le déficit, c'est dépenses moins recettes. Il va y avoir de moins en moins de recettes publiques si on suit la feuille de route du gouvernement. En plus, à travers des cadeaux fiscaux faits essentiellement aux plus riches, hein, parce que les projets fiscaux, là, ça va être des cadeaux clairs aux plus riches. Et à l'inverse, on va s'attaquer aux dépenses publiques. Or, les dépenses publiques, ils risquent, je suis désolée du terme technique, mais d'y avoir un effet multiplicateur, ce qu'on appelle un effet multiplicateur négatif, c'est-à-dire qui fasse que la baisse des dépenses publiques entraîne une baisse encore plus forte des activités et de l'emploi.
Christian Boissieu, vous partagez ce point de vue ?
Nous sommes dans une période de reprise. Alors, pas génial, on est autour de 1,6%, mais ce petit surcroît de croissance va quand même aider, parce que ça veut dire plus de rentrées, par exemple, TVA, etc. Deuxième remarque qui montre que l'équation est encore plus compliquée, c'est qu'on a ce déficit qui déborde par rapport aux critères européens, alors que, Aurélie l'a dit, les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Moi, ce que je crains pour les 2 ans qui viennent, c'est une remontée des taux d'intérêt, en particulier à long terme, sous pression d'un vent qui ne viendrait des États-Unis.
Donc ça va compliquer la donne.
Et là ça ne veut pas dire qu'il faille atteindre, remettre en cause les objectifs, ça veut dire qu'il va falloir aussi mettre en place des méthodes pour aborder la question qui est cruciale, qu'on n'arrive pas à traiter depuis 20 ou 30 ans, c'est-à-dire comment mesurer l'efficacité des dépenses publiques.
Alors, c'est l'occasion où j'ai rêvé finalement de mettre en place une vaste réforme de stratégie publique non forcément comptable.
On a eu ça dans le passé, ça n'a pas donné grand-chose. La LOLF, la loi organique sur les lois de finances, la fameuse revue générale des politiques publiques, ça n'a pas fait grand-chose.
Très vite,
on manque de biscuits là.
Oui, non, mais pour revenir au problème des dépenses publiques et de la baisse drastique, il faut rappeler quand même qu'en Grèce, les plans d'austérité depuis 2010, c'est moins un quart de produit intérieur brut pour la Grèce. C'est un désastre social et en plus une augmentation de la dette. Et c'est quand même bien ce qui risque de se passer si le gouvernement met en œuvre cette politique d'austérité qu'il est en train d'annoncer.
On pourrait en parler pendant des heures. On va poursuivre.
La suite du débrief éco dans quelques minutes.
France Info Trafic, avec BNP Paribas, la banque qui assure tous vos trajets, en ligne ou en agence, découvrez notre assurance auto et moto. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.
Johanna Yakin, vous nous accompagnez sur la route et ça coince un peu dans le sud-est.
Oui, sur l'A7, pour remonter vers Valence, c'est un peu ralenti. Il faut 40 minutes pour faire Montélimar-Valence. Ça coince aussi dans le golfe de Saint-Tropez avec une demi-heure de bouchon avant d'arriver à Sainte-Maxime. Et puis à Paris, pas d'énormes bouchons en ce moment. Ça reste assez fluide dans l'ensemble pour un dimanche soir. Mais on est quand même un petit peu ralenti sur l'A6 pour remonter vers la capitale. Circulation en accordéon depuis le Coudray-Monceau. Comptez en gros 3 quarts d'heure pour arriver jusqu'à la porte d'Orléans.
Johanna Yakin en direct du PC Mobilité de Radio France.
France Info.
17h-20h. Camille Revel.
La suite du débrief éco dans un instant. On va tenter de définir la prospérité aujourd'hui. Mais d'abord 18h50, tout pile, le rappel de l'actualité avec vous, Lauriane Delanoë.
Des terroristes, des voyous et des assassins. Voici comment Emmanuel Macron parle des ravisseurs de Sophie Petronin. Ils viennent de diffuser une vidéo, la toute première, dans laquelle l'otage française à Paris apparaît. Elle a été enlevée au Mali en décembre dernier. Cette vidéo dévoilée alors que justement Emmanuel Macron arrivait à Bamako pour le sommet G5 Sahel. Une force régionale antiterroriste va être créée avec plus de 5000 hommes. La France et l'Union européenne doivent participer au financement. Entre le PS et le mouvement de Benoît Hamon, il faut choisir. Sur France Info, Stéphane Le Foll demande à chacun de prendre ses responsabilités. L'ancien porte-parole du gouvernement socialiste veut pour sa part un changement en profondeur du parti, quitte à lui trouver un nouveau nom. Un sprint royal pour la deuxième étape du Tour de France. L'Allemand Marcel Kittel s'impose à Liège, en Belgique, juste devant le champion de France Arnaud Démare et l'Allemand André Greipel. Le Britannique Geraint Thomas reste leader au classement général. Demain, le peloton arrive en France à Longwy après une traversée du Luxembourg.
France Info.
La deuxième partie du débrief éco avec vous Emmanuel Cugny. On se demande maintenant ce qu'est la prospérité aujourd'hui. Et nous sommes toujours avec nos deux invités, Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et vous Aurélie Trouvé, vice-présidente du mouvement Attac. L'arrivée de la nouvelle équipe au pouvoir en France intervient alors que l'économie internationale reprend des couleurs. Emmanuel, dans quelle mesure le retour de la croissance peut réellement permettre de faire baisser le chômage, voire d'atteindre le plein emploi? En gros, sommes-nous réellement de retour dans un monde prospère?
Bah écoutez, l'innovation, le numérique, les progrès médicaux, tout cela offre des perspectives de nouvelles politiques publiques. On en a parlé il y a un instant. À l'heure de la mondialisation qui se caractérise par une ouverture vraiment accrue des frontières, la démultiplication des échanges commerciaux, l'internationalisation des chaînes de production, est-ce que cette prospérité peut encore être strictement nationale? Les 17e rencontres économiques d'Aix-en-Provence seront consacrées à ce thème le week-end prochain, organisées par le Cercle des économistes, des chercheurs, des politiques, des économistes du monde entier vont débattre pendant 3 jours.
Christian de Boissieu, vous êtes, je le disais, vice-président du Cercle des économistes. Pourquoi avoir choisi ce thème de la prospérité pour cette édition de ces rencontres?
Parce que d'abord, il faut regarder bien au-delà du PIB. On parlait de la richesse nationale. Aujourd'hui, il faut clairement travailler sur des indicateurs qui intègrent de beaucoup de dimensions qualitatives, en tout cas des variables qu'on a parfois du mal à mesurer. Deuxième remarque, nous sommes dans un contexte où, certes, il ne faut pas se fermer, je veux dire, la tentation protectionniste me paraît, moi, aujourd'hui, ce qu'il y a de pire, quand on regarde les annonces de M. Trump, quand on regarde les conséquences possibles du Brexit, il faut rester ouvert, mais il faut traiter les vrais sujets. Et les vrais sujets, ce n'est pas uniquement, je répète, des problèmes de croissance, c'est aussi les inégalités, la lutte contre la pauvreté, et puis intégrer correctement, comme elles doivent l'être, ces nouvelles variables qui sont aujourd'hui au cœur des débats économiques et sociaux, l'environnement, la révolution numérique. L'économiste doit ouvrir ces débats. Il n'est pas tout seul, certainement pas tout seul pour apporter les bonnes réponses. Il faut faire du pluridisciplinaire.
Aurélie Trouvé, ça vous discours, non, finalement? Vous êtes membre d'Attaque.
Bah, écoutez, oui.
On a balayé tous les champs du possible.
Je souscris en tout cas à la question des inégalités quand on parle de prospérité. Parce qu'effectivement, ce qui est important, c'est que soient plus prospères les 10% les plus riches qui détiennent déjà la moitié du patrimoine français, ou est-ce que c'est de faire en sorte que soient plus prospères ceux qui ne le sont pas aujourd'hui? Et je pense aux 20% de Français qu'aujourd'hui le gouvernement estime en pauvreté absolue, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à plusieurs besoins fondamentaux, par exemple le chauffage de leur logement ou partir une semaine en vacances loin de chez soi, hein, puisqu'on est bien, on est dans l'été, donc c'est quand même une question d'actualité. Et donc voilà, la question c'est comment on rend
est-ce que tout le monde peut accéder à la prospérité?
On peut y accéder, en tout cas tout le monde devrait pouvoir y accéder,
la règle,
et il y a des leviers essentiels pour ça, notamment les services publics qui se permet quand même à chacun d'avoir accès à un service, à un droit universel. Je pense aux hôpitaux, aux crèches, aux écoles, aux universités. Or, de ce point de vue-là, les annonces du gouvernement, pour moi, sont assez inquiétantes. Hein, quand il y a eu des annonces, par exemple, de baisse de budget dans les hôpitaux, j'espère que ce ne sera pas le cas. Mais en tout cas, la question du maintien, du renforcement de ces services publics n'est absolument pas sur la table. De même que n'est pas sur la table, bien au contraire, une redistribution des revenus via la fiscalité vers les plus précaires.
Christian de Boissieu, on parle beaucoup de décroissance, mais la prospérité finalement qui assure l'emploi, garantit la couverture sociale, la santé, est-ce qu'elle est possible dans un monde sans croissance?
Moi, j'ai jamais cru que la décroissance était la solution. Je vois pas comment on peut traiter les problèmes du chômage. Question centrale à mes yeux, chômage global et chômage des jeunes en particulier, sans croissance. Et je pense qu'on peut avoir de la croissance avec moins d'émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que je n'oppose pas l'optique de la croissance et la lutte contre le changement climatique. C'est tout le débat sur avoir une politique intelligente de l'énergie. Et j'ajoute que, Aurélie vient d'en parler, les questions d'éducation et de formation sont centrales, non seulement pour lutter contre le chômage, mais aussi pour réduire les inégalités. Au fond, ce qu'on voudrait essayer de faire durant ces 3 jours, ça a l'air ambitieux et je crois qu'il faut...
Avec Aix-en-Provence le week-end prochain.
Il faut être à la fois ambitieux et en même temps savoir ce qu'on peut faire et pas faire au cours de ces débat, c'est-à-dire essayer de définir un nouveau contrat social. Il n'y aura peut-être pas de convergence, il n'y aura peut-être pas de consensus, mais essayons au moins d'en débattre.
Aurélie Trouvé, sur ce point, donc, croissance, décroissance,
oui,
prospérité.
C'est un débat pour lequel on devrait débattre pendant des heures, mais je voudrais rappeler un livre magnifique qui est celui de Tim Jackson, Prospérité sans croissance, qui est en fait le rapport de la Commission développement durable britannique il y a quelques années, et au contraire qui montrait qu'on pouvait avoir zéro croissance avec un maintien, voire un développement de l'emploi, mais à plusieurs conditions. D'abord, en remplaçant les énergies fossiles par du travail humain, par des fameux emplois verts. Pour ça, il faut des incitations publiques fortes et des investissements, hein, des dépenses publiques. Il faut aussi développer les services relationnels, notamment les services à la personne, aux personnes âgées, etc. Et partager le temps de travail. Parce que ce que pense cette commission, c'est que tout point de croissance supplémentaire se traduit tout de même par plus de gaz à effet de serre, plus de pollution, et que donc pour être prospère, il faut envisager cette non-croissance, pas une décroissance, mais cette non-croissance, à condition d'actionner les leviers que je viens d'expliquer.
Là, c'est un point de clivage avec vous, Christian Boissieu.
Le seul point de convergence sur ces derniers propos, c'est l'importance d'une politique intelligente de l'énergie. Le contenu est peut-être différent entre nous deux, mais au moins, nous sommes d'accord sur l'objectif.
Les autres sources de prospérité, elles sont où aujourd'hui? On vient d'en voir quelques-unes, mais est-ce que d'autres peuvent émerger?
Je pense qu'elles restent en ouverture. Alors, c'est tout le débat sur l'avenir de la mondialisation, mais je pense que l'ouverture reste une source de croissance. Et puis, effectivement, il y a des gisements de croissance et d'emploi. Alors, il y a la question de l'impact du numérique, qui est une question extrêmement ouverte, parce qu'à court terme, ça risque de détruire en net des emplois. Et le débat, c'est l'effet à long terme. Et donc là, c'est le problème de l'horizon, de l'analyse et de la décision publique.
Aurélie Trouvé, sur ce point?
Oui, alors sur ce point, je pense que la prospérité aussi, c'est le bien-être au travail, ce qui est très important. C'est une grande partie de notre durée de vie. Et la libération du travail, dont parle Emmanuel Macron. Mais je doute très fortement que la loi travail qui est aujourd'hui sur la table permette justement de libérer ce travail. Je crois que c'est un vrai débat qui passe certainement pas par ce qui est prévu par le gouvernement, mais là il y a un vrai débat pour faire en sorte que le travailleur puisse s'émanciper dans son travail et soit moins au service et sous la contrainte de ses employeurs, mais puisse décider par exemple lui-même de plusieurs de comment il travaille, à quelles conditions, ce qu'il produit, etc.
C'est une vraie question. C'est une vraie révolution.
Une vraie révolution, mais je pense que c'est ça la libération du travail et certainement pas la loi qui se prépare et qui risque d'être.
Et je reviens sur l'impact du numérique, ça va avoir des conséquences non seulement sur la quantité mais sur la qualité, la manière de travailler. Ça, il faudra aussi qu'on en parle avec Aix-en-Provence.
Et ça appelle aussi une gouvernance.
Alors, les gouvernances, mais ça, c'est aux différents niveaux. C'est le problème de savoir comment on s'organise. Et on va rouvrir les débats qu'on a depuis des années avec Aix-en-Provence et sur lesquels, je dirais, la réalité progresse peu. C'est le G20, comment ça se passe. Et puis, la question de l'Europe, l'avenir de l'Europe me paraît aussi très important.
À la recherche de nouvelles prospérités, quelle prospérité pour demain? Réponse donc le week-end prochain lors des rencontres économiques d'Aix-en-Provence organisées par le Cercle des économistes. Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site www.lecercledeséconomistes.fr. C'est facile. Merci à vous, Emmanuel Cuny.
Merci beaucoup. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Et merci à vous deux, Christian de Boissieu et Aurélie Trouvé, d'avoir été avec nous ce soir. Très bonne soirée.